La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not blah blah blah. Blah blah blah.
Bonjour et bienvenue dans les décroissantes au chaud. Aujourd'hui nous découvrons un livre d'un jeune naturaliste Victor Noël intitulé « Sur les chemins du vivant ». Ce livre est paru aux éditions Delachaux et Niesley. Il est illustré par l'aquarelliste naturaliste Sophie Bataille. Allons-y. Aujourd'hui, en cette journée d'été, je pars sur les chemins du vivant. Ces chemins, nous les empruntons continuellement sans pour autant nous en rendre compte. À chaque instant du quotidien, le vivant est sous nos yeux, les espèces nous entourent. L'observation, l'attention, nous révèlent que nous ne sommes pas seuls à habiter le monde. Et pourtant, notre culture occidentale l'a oublié. Partir sur les chemins du vivant, c'est se défaire de cet oubli. C'est questionner les liens que notre société entretient avec les êtres qui la composent et qui composent le monde. J'aurais pu prétendre partir sur les chemins de la nature, mais ce terme ne me satisfait plus. En englobant tout ce qui est autre qu'humain, il tend à faire croire que nous sommes séparés du reste du vivant. Je vous invite donc à m'accompagner dans mon environnement familier, quelque part en Moselle, pour un petit aperçu des observations et réflexions auxquelles peuvent nous mener les chemins du vivant. Ma balade débute ici, au bord de la Moselle. Cette rivière commence son parcours dans le massif des Vosges pour se jeter dans le Rhin à Koblenz en Allemagne. Ce lieu, j'y suis grandement attachée. C'est sur ses rives, mais également aux abords du canal des mines de fer de la Moselle et des anciennes gravières environnantes que j'ai commencé à observer les oiseaux d'eau, nicheurs ou de passage.
Vers l'âge de 9 ans, j'y passais avec ma mère, des après-midi entiers. J'attendais ses sorties avec impatience. Mes affaires d'observateur étaient préparées dans l'excitation, comme si je partais à l'aventure.
Je cherchais les bandes de gravier affleurant la surface de l'eau, là où viennent se nourrir les chevaliers guignettes ou autres combattants variés, des oiseaux de la même famille que les bécasses. Je pouvais passer de longues heures à l'affût dans l'espoir de les apercevoir. Lorsque je longeais les berges, j'aimais me faire surprendre par le passage furtif et bruyant du martin-pêcheur. Si par chance il se perchait sur une branche, je ne bougeais plus et retenais ma respiration, de crainte qu'il ne s'envole. Je rentrais, heureux, des images plein la tête. Pour accéder aux berges, j'emprunte une petite route bordée par quelques cerisiers et pruneliers, source de nourriture pour bon nombre d'animaux. Des renards laissent ici et là des signes visibles de leur passage. Un lézard, des souches, prend le soleil sur un poteau en bois. De l'étang voisin, masqué par des bouleaux, me parviennent les cris sourds des foulques macroules. Je reviendrai ici dans quelques semaines avec mes grands-parents y cueillir des mûres. La Moselle n'est plus très loin, juste derrière cette prairie de fauches. J'aime cet endroit paisible, peu fréquenté et diversifié, où les observations sont nombreuses. Quel contraste avec ce champ de maïs, situé à quelques mètres de là. Me voilà arrivé sur la rive gauche de la Moselle sauvage, bordée de saules.
Assis au bord de l'eau, je ne peux m'empêcher de rêver à la grande histoire de la vie.
L'eau, voilà l'élément, le milieu où tout a commencé. Cette histoire, celle des vivants, retrace notre passé et nous rappelle d'où nous venons. Elle nous rappelle que nous sommes des vivants parmi les vivants. Il y a environ 3,8 milliards d'années, la vie faisait son apparition sous forme unicellulaire.
De ces premiers êtres vivants, nous descendons toutes et tous, vous, moi.
Les bactéries dans notre corps et sur notre peau, les aliments dans notre frigo, les organismes du sol qui ont permis leur existence, l'araignée au-dessus de votre tête qui vous regarde, votre voisin qui tond la pelouse qu'il est en train de tondre, l'oiseau qui niche dans votre jardin, les insectes qu'il donne à ses jeunes, le phytoplancton qui se trouve de l'autre côté du globe.
Tous les vivants sur cette terre ont une origine commune. Le vivant, la biodiversité, c'est comme une grande famille dans laquelle les cousins éloignés forment des écosystèmes.
Ces écosystèmes, c'est-à-dire les ensembles que constituent les êtres vivants avec leurs relations et interdépendances, ont été mis à rude épreuve à plusieurs reprises. 5 extinctions de masse du vivant ont déjà eu lieu. Les écosystèmes se sont effondrés et un très grand nombre d'espèces ont disparu. Ces extinctions se sont déroulées sur des centaines de milliers ou des millions d'années, causées notamment par des éruptions volcaniques ou des astéroïdes.
Aujourd'hui, le vivant est confronté à une nouvelle extinction de masse, la 6e, beaucoup plus rapide que les précédentes.
Et cette fois, il en est lui-même à l'origine, car c'est Homo sapiens, l'humain et ses actions qui l'ont entraîné.
Ou plus justement, une partie de ses représentants.
Ce n'est pas l'espèce humaine en tant que telle qui en est responsable. Il serait trompeur de penser que l'ensemble de l'humanité impacte de la même manière les écosystèmes. Il convient de ne pas jeter le même regard sur notre mode de fonctionnement occidental, en grande partie responsable des atteintes environnementales, que sur celui d'autres communautés à travers le monde. La destruction et la modification des habitats, la surexploitation des ressources, les diverses pollutions, le dérèglement climatique sont autant de facteurs destructeurs de la biodiversité. Face à cette situation, l'humanité se trouve aujourd'hui devant son plus grand défi, celui de préserver l'habitabilité du monde. Or, pour parvenir à un système qui ne détruise pas le vivant, mais le prenne en considération, le travail est colossal. Aujourd'hui, lors de ma promenade, je ne chercherai pas à décrire les moyens pour y parvenir, mais plutôt à interroger notre rapport au vivant.
Lorsqu'on évoque l'expression « extinction de masse », il nous vient immédiatement à l'esprit la disparition des dinosaures, il y a environ 65 millions d'années.
Il est donc évident que nous n'avons pas pu les connaître. Je m'amuse pourtant à répéter qu'il s'agit d'une fausse croyance, car des mammifères, qui depuis ont évolué, les ont côtoyés. Qui étaient-ils ? Nos ancêtres. Si nous étions, pas encore, il est vrai, Homo sapiens, nous étions bel et bien là. Depuis que la vie existe, nous existons.
Mais les dinosaures n'ont pas réellement disparu.
Depuis quelques minutes, j'observe un de leurs descendants plongé à la recherche de nourriture. C'est un grèbe huppé, un magnifique oiseau d'eau.
Les oiseaux sont des thérapodes, c'est-à-dire...
des dinosaures. Le grèbe que j'observe est accompagné de ses jeunes de l'année. Ils ont vu le jour dans la roselière, sur un nid fait d'algues et de roseaux.
Un café ? Un décroissant tout chaud ?
Vous êtes bien sur Radio B, avec Gaëlle
et Lola.
Un coucou gris dont le chant berce ma promenade depuis de longues minutes vient de passer juste au-dessus de ma tête. C'est ici, au bord de la Moselle, que j'observe le plus fréquemment ces cuculidés. En vol, ils sont semblables à des rapaces, plus précisément à des éperviers. Et cette ressemblance avec cette espèce tant redoutée, des petits oiseaux, permettrait à la femelle de chasser de leur nid rousserolles, pouillot ou autres petits passereaux apeurés. La suite, vous la connaissez sûrement. La femelle coucou va profiter de leur absence pour y pondre un œuf, après en avoir jeté un de l'oiseau chassé, pour ne pas éveiller les soupçons.
Une fois né, le jeune coucou va se débarrasser des œufs restants. Il sera ainsi élevé, seul, par le couple d'oiseaux, qui ne se sera aperçu de rien.
Et en suivant le coucou du regard, je le vois se poser sur un grand et vieil arbre qui domine les environs de toute sa hauteur. Perchoir idéal pour y faire résonner son chant. Cet arbre, ce être commun, quel âge peut-il bien avoir ?
Plus de 100 ans, c'est certain.
Le jour où la faîne, ce fruit du hêtre semblable à une petite châtaigne triangulaire et qui, en tombant, sert à la future plantule, Le jour où cette faîne, donc, a germé, on peut se demander à quoi pouvaient bien ressembler les environs.
La rivière était-elle encore peuplée de castors et la campagne de loups ?
Quand ce hêtre ne mesurait que quelques centimètres, lui et les autres jeunes arbres profitaient sans doute de l'aide des plus vieux, au sein de ce qui s'apparentait à une véritable nurserie. Sous nos pieds s'opère une incroyable symbiose entre les plantes et les champignons dits mycorhiziens. Non seulement les plantes et les champignons échangent de l'eau et des nutriments, mais ils forment aussi des réseaux incroyables où circulent des informations. Les plantes se préviennent mutuellement des dangers par le biais de ces réseaux. Les champignons et les connexions qu'ils entretiennent avec des espèces si différentes d'eux ont tout simplement permis au monde végétal de coloniser le milieu terrestre. Le jeune être, lui, bénéficiait sans doute pleinement de ces réseaux. Les grands arbres qui l'entouraient, des hêtres, mais également d'autres espèces, partageaient un peu de leur sève par l'intermédiaire des champignons mycorhiziens. Tout ce dont avait besoin ce jeune arbre lui était offert.
Eau, nutriments, messages immunitaires, permettant de se défendre face aux bactéries pathogènes et aux attaques de certains insectes.
Devant des abrisseaux poussant à l'ombre de grands arbres, nous ne voyons que de la concurrence. Pourtant, la lumière dont bénéficie l'arbre-mère est diffusée indirectement aux jeunes. Tous ne survivront pas, certes, mais quand l'arbre qui les surplombe dépérira et chutera, ils prendront le relais de celui qui a permis leur existence, qui les a nourris.
Pour cela, nul besoin de tronçonneuse. Le cycle naturel s'accomplit de lui-même.
Revenons aux jeunes êtres, aux jeunes êtres. Les arbres avec lesquels il était connecté avaient acquis une expérience. Ils avaient en eux un cortège de solutions, les ayant aidés à faire face aux caprices de la météo, aux sécheresses, mais également aux maladies et autres problèmes rencontrés au cours de leur existence. Ces solutions, cette mémoire immunitaire, peuvent, elles aussi, être partagées dans le réseau.
Ainsi, le jeune être a profité de l'expérience acquise par les vieux arbres. Il a bénéficié des clés et du « savoir » dont il disposait. En grandissant, il est devenu le gîte de différentes espèces, notamment d'insectes. Vers ses 40 ans, il a commencé à se reproduire et à produire des faînes, très appréciées des grands comme des petits mammifères, ainsi que de centaines d'espèces d'oiseaux.
Tout au long de son existence, il aura vécu en interaction avec les arbres qui l'entouraient. Il aura partagé un peu de ses ressources, il aura communiqué, reçu et diffusé des informations. Plus il aura pris de l'âge, plus il sera devenu accueillant et important pour une myriade d'espèces. La biodiversité présente sur un arbre double tous les 100 ans. Le nombre d'individus et des espèces recueillies augmente, ce qui fait des vieux arbres de véritables refuges. Plus un arbre est vieux, plus il est bénéfique à son écosystème, en raison de sa plus grande expérience partagée avec les autres plantes et d'une plus grande diversité d'espèces hébergées. Dans les écosystèmes, plus la diversité est grande, mieux les choses fonctionnent et plus il existe de solutions pour répondre à d'éventuels déséquilibres. Les vieux arbres, je les perçois ainsi un peu comme des faiseurs de durabilité.
Avez-vous un vieil arbre non loin de votre potager ? Si oui, soyez-en ravis, car il lui apporte beaucoup, bien plus que ce que l'on peut imaginer.
Aujourd'hui, ce vieux être ne fait plus de photosynthèse.
La sève ne circule plus dans ses branches.
Il a cessé de croître.
De fructifier.
Et pourtant, cet arbre mort ne l'est pas tout à fait. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ses racines sont encore connectées aux champignons mycorhiziens et reliées au réseau. Même mort en apparence, ce être peut encore partager son expérience autour de lui. Cet arbre tiendra sûrement debout pendant encore plusieurs années, au long desquelles les coucous continueront de venir chanter sur ses branches.
où les abeilles sauvages continueront de pondre leurs œufs dans les galeries creusées par des insectes xylophages.
Où lichens et champignons continueront de s'épanouir sur son tronc. Ce ne sera qu'un court moment comparé à l'âge vénérable de l'arbre, mais ces années se révéleront des plus précieuses pour une grande diversité d'espèces. Puis viendra le jour où, lorsque son tronc aura pourri,
que la neige sera tombée ou que le vent aura soufflé,
le grand être chutera. Mais dans sa chute, toute son histoire ne sera pas perdue, car quand il ne restera de lui qu'une souche, il servira encore de guide aux arbres qui l'entourent, aux arbres qui le maintiendront en vie pour profiter encore un peu de son savoir. Il m'était impossible de passer devant ce grand être sans m'arrêter, sans parler des vieux arbres. De manière générale, les arbres impressionnent.
Pourtant, lorsqu'ils meurent, nous les voyons comme de vieux débris dont il convient de se débarrasser. Cet arbre sec, à quoi bon le laisser debout ? Si on arrivait à comprendre à quel point les arbres morts sont utiles aux espèces vivantes, cette habitude culturelle consistant à les abattre lorsqu'ils commencent à dépérir ne nous viendrait plus à l'idée.
Je reprends ma route. Je souhaite rejoindre un rassemblement contre l'implantation d'Amazon dans un village voisin. Mon engagement a évolué ces trois dernières années. Si au départ je me focalisais sur la défense d'espèces animales ou sur ce qu'on appelle communément la protection de la nature, je m'intéresse à présent également aux luttes qui répondent à des enjeux plus globaux. J'ai compris que défendre le vivant, c'est aussi lutter contre un système économique, un système plaçant le profit financier avant le vivant et la santé humaine. Amazon en est le paroxysme. On écoute les goguettes, on change pas à pas. À très bientôt sur Radio B.
Je ne mange pas trop sucré ou trop gras, mais parfois je bois un coca. Je ne mange pas d'animaux jamais, mais le poulet ça compte pas. C'est ma mère qui dit ça. Je n'achète pas de vêtements à la mode, sauf parfois quand ils sont en solde chez Shine ou Zara. Et je n'oublie pas d'éteindre la lumière chaque fois que je veux dormir. Comme ça je gaspille pas. Je ne cautionne pas l'esclavage des enfants, mais j'ai un iPhone 23 qui va me tenir 6 mois. Je ne soutiens pas les multinationales, les Uber et les GAFA. Je l'ai posté sur Insta. Je suis au combat contre les injustices. Oui, mais à la dernière manif, j'avais cours de yoga. Je n'oublie jamais de trier mes déchets, mais les capsules de café, je sais jamais où ça se met. Je ne commande jamais de trucs sur Amazon, à part pendant le Black Friday. C'est moins cher, c'est vrai. Je suis pas fier de ça, mais c'est pas une raison pour monter la tonne. Franchement, c'est pas sympa. C'est trop haut pour moi. Il faudrait redescendre, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ah bah voilà comme ça. Bref, je disais quoi? Ah oui, tout ça pour dire qu'on n'est jamais aussi droit que ce qu'on dit ou croit. Car si tu grattes là, y a bien un contresens, une légère incohérence dans nos actes et nos choix. On a tous en nous ces petites dissonances qui font que toujours on avance, mais pas trop vite surtout. On change pas à pas, et c'est à ça qu'on voit qu'on n'est pas une IA.